Radio Okapi.
Le journal Billy Ivan Lutumba à la présentation.
Nous démarrons cette édition vespérale du journal sur Radio Okapi par la tenue ce lundi de la première conférence sur les mines, l'énergie et les infrastructures dans le Maniema. Premier message du gouvernement et objectif, c'est tout de suite. La traque des ADF dans la partie est de la RDC continue et doit aboutir à l'élimination de la menace terroriste. Mesure issue d'une évaluation tenue ici à Kinshasa des opérations militaires que mènent FRDC et UPDF. Santé avec notre invité en fin de ce journal, il s'agira de la lutte contre le cancer du sein. Célestin Kachunga, coordinateur général des ASICA, une ONG des droits congolais active pour combattre les cancers, est notre invité. Et pour en savoir davantage, merci à l'avance de garder vos fréquences respectives de Radio Okapi, votre source d'information par excellence. Bienvenue et excellente condition d'écoute à toutes et à tous. Bonsoir à tous. Bien avant tout, Nord Kivu, au moins 4 corps des victimes du naufrage du 3 octobre ont été repêchés au Rwanda hier dimanche et sont depuis gardés à la morgue à Gisenyi. D'après la société civile de Minova, des démarches seraient en cours au niveau des autorités ainsi que des mécanismes régionaux afin de rapatrier ces corps vers Goma où ils seront identifiés avant d'être rapatriés vers leur village d'origine. La société civile de Minova évoque en outre des mesures annoncées ce lundi par le gouverneur du Sud Kivu pour faciliter le transport lacustre aux habitants de Minova. C'était au cours d'une réunion de sécurité territoriale élargie à la société civile. Sadiki Juge parle entre autres des mesures de disponibiliser le bac de l'Office des routes pour faciliter le transport des riverains en attendant une solution durable. Rappelons que 13 corps des victimes de ce naufrage ont été enterrés samedi dernier à Minova. 11 ont été enterrés jeudi à Goma et 4 autres par leurs familles respectives. Premier titre de cette édition à présent. La première conférence sur les mines, l'énergie et les infrastructures du Maniema a ouvert ses portes aujourd'hui à Kindu. Le coup d'envoi de cet important rendez-vous a été donné par le ministre des Mines. Kizito Pakambomba formule le vœu de voir les participants à cette conférence prendre des résolutions d'augmenter le nombre des trafics ferroviaires entre Kindu, Kalemi et Kindu-Lubumbashi, y compris la réhabilitation des voies routières, fluviales et ferroviaires entre Lubutu et Kisangani. Objectif visé, désenclaver le Maniema tout en luttant contre la sortie frauduleuse des produits miniers de cette province vers d'autres. Florence Kizalunga pour plus de détails.
Tout en saluant l'initiative du gouverneur du Maniema, initiateur de cette toute première conférence, les ministres de Mines le rassurent de l'accompagnement du gouvernement. Kizito Pakabomba.
Au niveau du gouvernement central, nous sommes là pour appuyer la province dans toute la mise en œuvre pour attirer les investisseurs étrangers et faire la promotion du secteur minier en particulier, avec toutes les potentialités de la province qui ne sont plus à démontrer. Et l'ensemble de ces minerais doivent servir au développement de la province, mais également au bien-être socio-économique des populations.
Les gouverneurs du Maniema ne jurent que sur la traçabilité des minerais produits dans sa juridiction.
Le Maniema a l'ambition légitime, par moment, de tout mettre en œuvre pour limiter autant que possible les travaux ultérieurs de sa production d'exploiter en créant sur place dans la province d'île Fonderie. Cet appel est lancé au DG des fourmines ici présentes.
La population du Maniema espère voir les conclusions de cette conférence contribuer réellement au développement de la province telle qu'évolue par le chef de l'exécutif provincial. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Okapi.
Actualité dans la province du Congo central, les déclarants en douane issus des différentes corporations de cette province, notamment ceux de Ludeco, Udedo, Redeco, Exercin, Matadi, Boma et Lufu sont en grève depuis plus de 10 jours. Ces derniers ont plusieurs revendications, parmi lesquelles la suppression de la redevance logistique terrestre. D'après Bruno Nzaou, du rassemblement des déclarants consciencieux en sigle Redeco, cette redevance était mise en place juste pour 2 ans, mais ça fait aujourd'hui 10 ans que le déclarant la paye. Conséquence, il se vit une rareté et hausse de prix de plusieurs produits ainsi que l'engorgement des ports à travers la province. Reportage Nana Plurich Mambou.
À ces jours, les différents ports des Matadi, des Boma et celui des Lufu sont quasi inopérants. Les déclarants qui les affluent observent une grève depuis le début du mois d'octobre. À travers ces mouvements, ils revendiquent notamment la suppression de la redevance logistique terrestre. Bruno Nzaou, porte-parole du Rassemblement des déclarants conscienciés en sigle RDECO.
Vous savez, ces recettes de la redevance logistique terrestre, ce qu'on appelle communément RLT, sont censées relancer le chemin de fer de l'ONATRA ainsi qu'équiper en logistique les ports de l'État congolais. Mais malheureusement, nous avons récemment compris que cet argent était détourné par des individus qui seraient membres d'un certain comité de suivi RLT. Et deuxièmement, nous sommes en train de dénoncer la violation du décret 05 portant institution d'un guichet unique à l'importation et à l'exportation par le Programme national d'hygiène aux frontières et l'Office congolais de contrôle. Vous savez, aujourd'hui, l'OCC, le PNHF, continue à percevoir en dehors de ces guichets, ce qui met à mal nos activités en tant que déclarants douane.
Pendant ces temps à Matadi, cette grève a engendré la rareté et la hausse des produits de seconde main en provenance de l'Europe appelée Bilocost ainsi que de plusieurs autres produits alimentaires. Au niveau des ports, l'engorgement des conteneurs met en mal les opérations de déchargement des navires. Ces déclarants sollicitent l'implication du chef de l'État pour obtenir gain de cause à leurs revendications. Matadi, Nana Plurish Mambu, Radio Okapi.
Et du côté de l'Ituri, plusieurs écoles primaires publiques sont en grève depuis ce lundi matin dans le territoire de Mambasa, situé à 165 km au sud-ouest de Bunia. Cette action fait suite à l'appel du syndicat national des enseignants des écoles publiques qui a décidé de durcir le mouvement de grève sur l'ensemble du territoire national. Lors de leur assemblée générale tenue dimanche, les enseignants ont exigé une amélioration de leurs conditions salariales avant la reprise des cours. Entre-temps, des milliers d'enfants sont privés d'éducation. Écoutons la déclaration de leur porte-parole Patrick Mavané. C'est un extrait sélectionné par Martial Kizabiamongo.
Pourquoi nous commençons un mouvement de grève aujourd'hui? Il vous en souviendra que l'année passée, au mois de mars, nous avons signé un avenant à l'accord que nous avions précédemment signé au mois d'août 2021 avec le gouvernement de la République. Vous vous rendez compte que aujourd'hui, le gouvernement n'a pas réalisé ses propres engagements. Les médecins des services publics de l'État réclament, un, c'est qu'on leur paye au grade statutaire. Deuxièmement, c'est la majoration de notre prime de risque, de notre rémunération en fait. Vous savez que la grande partie de notre rémunération est faite par la prime des risques et le gouvernement s'était engagé à pouvoir l'améliorer. Troisième chose, c'est l'alignement des médecins, des jeunes à la prime des risques professionnels. Ces médecins qui ont été engagés par le même gouvernement, qui travaillent mais qui ne sont pas rémunérés. Quatrièmement, c'est la mécanisation des médecins qui travaillent sans avoir été mécanisés, c'est-à-dire reconnus par la fonction publique. Mais aussi les conditions sociales des médecins se sont dégradées. Vous voyez les médecins manquer de fonds pour se faire soigner, des médecins qui sont des locataires qui sont en train d'être chassés, et ça, ça n'indispose pas le gouvernement.
Là, vous venez de suivre Dr John Senga au micro de Krasam Zati qui parlait des médecins membres du syndicat national des médecins Sinamed qui ont décidé de décréter une grève avec un service minimum dès ce mardi 15 octobre sur toute l'étendue de la RDC, sauf dans les deux provinces sous état de siège. Ces décisions ont été prises lors de leur assemblée générale tenue le week-end à Kinshasa. Et contacté ce lundi par Radio Okapi, le secrétaire général national de Sinamed affirme que seules les urgences ainsi que les centres de prise en charge de l'épidémie de la variole de singe Mpox seront opérationnels. Ces médecins accusent le gouvernement de mauvaise foi de n'avoir pas honoré ses promesses, notamment d'améliorer les conditions socio-professionnelles des médecins. Et puis, le début de cette grève coïncide avec l'ouverture ce même mardi à Bibo, ici à Kinshasa, des travaux d'évaluation et d'analyse des différents cahiers des charges et accords entre le gouvernement et les médecins. Toutefois, Dr John Senga indique que cette grève pourra être suspendue s'il y a un compromis à l'issue de ces assises. Autre mouvement des grèves, lancé le 4 octobre courant, le préavis de grève de l'intersyndicale des professionnels de la santé prend fin ce lundi à minuit. Le porte-parole de la Fédération des syndicats des infirmiers du Congo l'a fait savoir dans un entretien accordé aux médias ici à Kinshasa. Joseph Kibangula a déploré que le gouvernement sous-minois n'ait pas pris en compte les désidératas des blouses blanches. Il a fait savoir que cette indifférence de l'exécutif national risque d'entraver le vaste programme du chef de l'État sur la gratuité de la maternité et la couverture santé universelle. Joseph Kibangula est au micro de Blaise Ndongala Mayanda.
La Fédération des syndicats des infirmiers du Congo dénonce et déplore le manque de volonté politique ainsi que la mauvaise foi du gouvernement qui est censé aider le chef de l'État dans son vaste programme de la couverture santé universelle. C'est ici l'occasion de rappeler au gouvernement que nous ne cesserons d'insister que sans les concours des infirmiers, ni la gratuité de la maternité et les soins aux nouveau-nés, ni la lutte contre les épidémies du genre MPOX, ni toute autre activité sanitaire ne peut réussir. De ce qui précède, la Fédération des syndicats des infirmiers alerte tous les infirmiers du secteur public d'être très conscients, prêts et de prendre les dispositions utiles selon les modalités arrêtées par les syndicats de la santé dans la lettre du 12 octobre 2024. Seule la lutte libère. La peur rend esclave et ne profite qu'à l'oppresseur.
À ce sujet, une commission paritaire est attendue cette semaine entre le gouvernement et le banc syndical des prestataires de santé à Bibois, une banlieue quinoise. Nous parlons sécurité, sécurisation et pacification de la partie est du pays. La République démocratique du Congo et l'Ouganda réaffirment leur engagement à poursuivre les opérations militaires conjointes contre les ADF. Cette décision a été prise lors d'une évaluation des opérations conjointes menées par les armées des deux pays depuis le 30 novembre 2021 à Bénin, dans le Nord Kivu et à Ituri. Cette évaluation s'est tenue ce week-end à Kinshasa, marquant une étape clé dans la coopération militaire entre les deux nations. Martial Papi Mukeba pour plus de détails.
Du 10 au 11 octobre 2024, les armées congolaises et ougandaises se sont réunies à Kinshasa pour évaluer leurs opérations conjointes contre les rebelles des ADF. Le général Kayanja Muanga, commandant des forces terrestres de l'armée ougandaise qui dirigeait la délégation des l'UPDF, a déclaré que plusieurs avancées ont été réalisées sur le terrain à ce jour. Les conclusions de cette évaluation ont été présentées au général d'armée Christian Chiwewe, chef d'état-major de FRDC, en présence de l'ambassadeur ougandais en RDC. Selon le général Jacques Ichaligonza, chef d'état-major adjoint de FRDC, les deux pays ont réaffirmé la nécessité de continuer à traquer les groupes terroristes ADF conformément aux engagements pris par le président Félix Tshisekedi et Yoweri Museveni. Le samedi soir, le président Félix Tshisekedi a reçu les commandants de la force terrestre ainsi que les officiers de l'armée ougandaise. Au cours de la rencontre, en présence du chef d'état-major des FRDC, Félix Tshisekedi a donné des instructions claires pour renforcer la coopération militaire entre la RDC et l'Ouganda en fait d'éliminer la menace des ADF. Béni, Martial Papi Mukeba, Radio Okapi.
Actualité dans la province de la Tchopo, le commandant de la 3e raison zone de défense a lancé ce lundi au camp lieutenant-général Lucien Bahouma la formation des sous-officiers futurs commandants des troupes sur le terrain. C'était en présence d'une délégation de l'état-major général des FRDC. Mais bien avant le coup d'envoi de cette formation, le lieutenant-général Marcel Mbangu a sensibilisé ses éléments sur leur rôle ainsi que les missions dévolues aux FRDC. Un reportage de Jacques Moukonkole.
S'adressant aux sous-officiers à cette parade, le commandant de la 3e zone de défense a déclaré qu'ils sont les piliers des forces armées nationales congolaises. Pour cela, ils doivent être en bonne santé afin qu'ils soient en mesure d'accomplir les missions essentielles qui leur sont confiées, notamment la pacification du pays, la restauration de l'autorité de l'État et la défense de la patrie. Par ce mot de réconfort, le lieutenant-général Marcel Mbangu exhorte en même temps les sous-officiers à se battre durement pour accomplir leur serment de militaire, en l'occurrence notre sang pour la patrie. Pour y arriver et honorer leur rang, le commandant de la 3e zone de défense leur interdit un certain nombre de comportements, à savoir la consommation des boissons fortement alcoolisées, la prise des stupéfiants, la peur au front ainsi que le vol. Agir autrement serait une façon de s'attirer la malédiction, martèle le lieutenant-général Marcel Mbangu. Celui-ci enjoint par ailleurs tous ses militaires à l'amour du prochain, car ainsi sait-il, l'armée constitue leur famille. Enfin, il les convie au respect de la hiérarchie ainsi qu'à la discipline, la mère des armées, Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Lundi, l'Organisation mondiale de la santé a franchi un nouveau cap dans la lutte contre le Mpox en approuvant la préqualification du vaccin Jynneos de Bavarian Nordic pour les adolescents âgés de 12 à 17 ans. Cette décision survient après une série d'inquiétudes croissantes liées aux épidémies récentes des varioles, également appelées Mpox, qui a touché plusieurs pays, notamment en Afrique. L'OMS a déclaré que cette tranche d'âge est particulièrement vulnérable à cette maladie virale qui provoque des symptômes grippaux sévères ainsi que des lésions cutanées. Et puis, le nouvel accord cadre de coopération sur le Nil est entré en vigueur dimanche malgré l'opposition de l'Égypte et du Soudan, deux pays fortement dépendants des eaux du Nil pour leurs ressources en eau. Cet accord vise à établir une gestion équitable et durable du fleuve entre les pays riverains, dont l'Éthiopie, le Rwanda et la Tanzanie, qui ont déjà ratifié le texte. L'Égypte et le Soudan, situés en aval, dénoncent un manque de garantie quant à la protection de leur approvisionnement en eau.
L'invité.
Lutte contre le cancer du sein, le gouvernement appelé à s'impliquer davantage dans la sensibilisation de la population, le dépistage, mais aussi la prise en charge des malades. L'appel est de Célestin Kachunga, coordinateur général des ASICAS, une ONG des droits congolais active notamment dans la lutte contre les cancers gynécologiques. Célestin Kachunga rappelle aussi aux femmes l'importance de l'autopalpation. Il s'entretient avec Babel Pongo-Massimango.
Monsieur Célestin Kachunga, bonjour.
Bonjour madame la journaliste.
Dans le concret, qu'est-ce que vous faites dans le cadre de cette lutte?
ASICAS, d'abord, c'est une organisation des droits congolais, active depuis 2009 en République démocratique du Congo, très engagée dans la prévention et la lutte contre les cancers gynécologiques, dont les cancers du sein, les cancers du col. Nous sommes là dans le cadre de la sensibilisation de la population à ce qui concerne les modes de prévention, parce qu'on a compris que les malades, le plus souvent, se présentent au circuit sanitaire, au stade très avancé de la maladie, faute d'informations à ce qui concerne les modes de prévention. À part ça, nous facilitons aussi les dépistages, l'accessibilité au dépistage de la communauté vulnérable à ce qui concerne les dépistages des cancers du sein, les cancers du col. Et nous menons aussi les plaidoyers par rapport à l'homme politique.
Vous parlez de la sensibilisation, c'est à des moments précis, c'est toute l'année. Vous la faites comment et où?
Chez nous, nous faisons une lutte contre les cancers, une lutte continue et non événementielle. Nous, on ne parle pas que les cancers pendant un événement ou la journée mondiale ou pendant l'Octobre rose, non. Nous les faisons chaque jour. Et la sensibilisation là est orientée vers la population vulnérable. Par exemple, nous formons d'abord des relais communautaires qui nous accompagnent et vont vers la population les sortir dans l'ignorance qui les éloigne du dépistage précoce.
Vous passez dans des familles, vous allez dans les églises, comment ça se fait?
Voilà, il y a plusieurs approches que nous avons. Il y a des porte-à-porte, nous organisons des séances de sensibilisation dans les églises bien sûr et même dans les entreprises et là où il y a la population. Et on en profite couplé aussi cette sensibilisation au dépistage à partir de nos cliniques mobiles.
Déjà avoir un membre de famille qui souffre du cancer, c'est un poids pour les familles. Comment vous intervenez pour soutenir ces familles-là?
Oui, c'est ça la difficulté que nous avons. C'est ainsi que j'en profite encore de mener peut-être un plaidoyer par les canaux de votre chaîne parce que vous parlez de la prise en charge. La prise en charge dans notre pays est tellement coûteuse. Je vais vous donner quelques exemples. Pour une dame qui se présente au stade, par exemple, 1 ou 2, parce qu'il y a des stades, ça dépend des stades.
Le stade 1, c'est-à-dire le début?
Oui, c'est encore au début qu'on peut guérir parce que le cancer est curable si détecté à temps. Dans notre pays, il faut avoir au minimum dans le 30 000 dollars. Ce qui n'est pas à la portée de toutes les bourses.
Au premier stade?
Au premier stade, bien sûr. Donc là, peut-être, il faut la chirurgie, et couplée peut-être à la chimiothérapie.
Selon vous, qu'est-ce qu'il faut pour améliorer le dépistage et la prise en charge du cancer dans notre pays?
D'abord, c'est la prise en compte de la lutte contre le cancer par l'homme politique. Et non d'attendre de parler de cancer lors d'un événement. Donc, avoir un programme spécifique et opérationnel. Il est vrai qu'il y a un centre national de lutte contre le cancer, mais permettez-moi les termes, ça existe, mais c'est pas vraiment opérationnel. Il ne faut pas rester dans les conférences scientifiques, non. Il faut aller vers ces populations-là, les soutenir. Normalement, à l'avant-plan, c'est le gouvernement. Je ne cesserai jamais de dire, tant que le gouvernement ne s'implique pas, on continuera à mourir parce que nous, les ONG, nous supportons les poids que le gouvernement peut assurer. Ça veut dire quoi? À tout moment, on nous contacte. Peut-être votre téléphone sonne par rapport à autre chose. Mais moi, mon téléphone sonne par rapport aux malades de cancer. Je suis concerné d'un cancer. Je manque l'argent. Je suis allé telle place. Voilà la facture. 50 000, 100 000 dollars. Alors que le gouvernement peut collaborer avec ces structures-là, les faciliter, exonérer quelques taxes pour réduire un peu les coûts. C'est ce que nous sollicitons. Et non seulement des parler lors des événements. Nous sommes à l'Octobre rose, le 4 février, c'est la journée mondiale des discours qui n'avantagent pas les malades.
Pour terminer, un message à la population à l'occasion de Octobre rose.
Chers compatriotes, le cancer existe et tue notre communauté et vous devez être prudente en observant ou en faisant des gestes de l'autopalpation. Ça veut dire à partir de soi-même, on peut se dépister avant qu'on aille voir les médecins avec des gestes simples qui ne demandent pas des moyens. Debout devant un miroir, vous regardez vos seins, s'il n'y a pas des anomalies. Des anomalies parce que le plus souvent les cancers du sein se développent sous forme d'une boule au niveau du sein, mais toute boule, attention, n'est pas synonyme à un cancer du sein. La boule qu'ils sont en train de faire allusion ici, c'est la boule lorsqu'on palpe les seins, la boule est statique, ça colle. Mais lorsque vous palpez votre sein et la boule bouge, c'est bon, Mais lorsque vous avez aussi, vous remarquez que vous avez une boule statique, il ne faut pas vous enflammer, allez voir un médecin qui va peut-être vous orienter vers la mammographie pour avoir des examens approfondis et aussi regarder s'il n'y a pas des écoulements autres que les maternels. Et les gestes d'autopalpation se font chaque mois, une semaine après les règles. Et si vous êtes ménopausé, vous choisissez une date fixe les mois, vous passez vos gestes d'autopalpation.
Célestin Katunga, merci d'avoir répondu à nos questions.
Merci beaucoup, madame.
À vous aussi, auditeurs, nous disons merci d'avoir suivi ce journal sur Radio Okapi. Alain Goya sur la prise de son et la mise en onde, et Billy Van Loutemba vous l'a présenté.